Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques de l'armée rouge ouvraient les portes du camp d'extermination d'Auschwitz et libéraient les déportés survivants. Depuis, ce jour marque est devenu la journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. On parle du devoir de mémoire et des challenges modernes face à la Shoah avec une historienne spécialiste de cette période. Il s'agit de Laurence Schramm qui répond aux questions de Blaise Van der Linden.
Laurence Schramm, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. 27 janvier 2026, c'était le 27 janvier 45 que les troupes soviétiques pénétraient dans Auschwitz-Birkenau, découvrant l'horreur du plus grand camp de concentration et d'extermination nazie. Alors on va évidemment parler de tout ce qui s'est passé durant ces 81 années. Mais pour commencer, Laurence Schramm, ramenez-nous dans ce jour si particulier.
Bye. Ce jour particulier est précédé par une période qui est complètement dramatique pour les détenus qui sont toujours en vie et qui restent dans le complexe concentrationnaire d'Auschwitz-Birkenau. Ce sont les marches de la mort. Donc il faut savoir que à partir déjà de la fin 44, certains déportés vont être transférés d'Auschwitz vers d'autres camps de concentration plus à l'ouest, et la grande évacuation, les grandes marches de la mort vont se tenir du 15 au 18 janvier principalement, et ça c'est l'évacuation finale d'Auschwitz. Alors dans ces évacuations, on va emporter uniquement les détenus qui sont encore en état de marcher, et on appelle ça les marches de la mort parce que ça correspond sans doute à la période la plus meurtrière de l'histoire des camps, donc ces évacuations. Alors quand les soviétiques découvrent le camp de concentration d'Auschwitz et ses annexes, et ben il reste des prisonniers moribonds, il reste très peu de personnes encore sur place. Les Allemands ont, comme à l'accoutumée, abandonné le lieu avant que les soviétiques n'arrivent. Et les soviétiques vont mettre en place des systèmes d'aide, pour pas dire au plus pressé, mais les soviétiques continuent leur route vers la libération, évidemment.
Ouais. C'était donc, je le disais, hein, il y a 81 ans. Aujourd'hui, il reste moins de 200 000 survivants juifs de la Shoah dans le monde. C'est extrêmement important de perpétuer ce devoir de mémoire et de passer cette mémoire des générations en générations, ce que vous faites à la caserne, d'ailleurs.
Oui, mais on préfère quand même parler de devoir d'histoire, parce que pour se remémorer quelque chose, pour le commémorer, il faut d'abord savoir exactement ce dont on parle. Donc il est essentiel de bien faire de bien poser la définition de ce qu'était la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, allez-y.
Donc, je vous en prie.
Comment justement, vous, à la caserne d'Ossin, et puis vous, en tant qu'historienne, vous imprégnez de ces récits au plus possible pour pouvoir continuer à les relater aux plus jeunes?
On travaille beaucoup avec des témoignages, avec des survivants qu'on a rencontrés. Il y en a évidemment de moins en moins, comme vous le soulignez, mais notre partie à la caserne d'Ossin, c'est vraiment de mettre l'accent sur l'humain. Et donc, nous avons notre emblématique mur des portraits, où les portraits de chacun des déportés trouvent leur place. Quand on n'a pas encore retrouvé la photo, on a une silhouette qui représente la personne, l'individu, et qui nous permet de le compléter. Donc une fois par an, on rajoute ces photos. Mais il faut savoir que derrière la recherche des photos qui visent à rendre un visage à chacune de ces personnes, on a aussi le service de recherche historique qui vise à rendre à chacune de ces personnes une histoire, une biographie, aussi courte soit-elle. Mmh. Et alors, nous avons maintenant également le projet Chaque nom compte, qui est vraiment très important et qui vise à rassembler autant de voix qu'il y a eu de déportés pour que chaque voix lise et commémore donc et perpétue le nom, le prénom, le nom et l'âge au moment de la déportation, la déportée.
Oui. Radio Judaïka va organiser un voyage à Auschwitz pour ses auditeurs. C'est important, selon vous, de se rendre sur place. On voit évidemment des images, on voit des photos, mais l'ambiance sur place, c'est important de s'en imprégner pour comprendre ce qu'il s'est passé.
Alors, je crois que l'ambiance sur place n'a rien à voir avec ce que ça a pu être. Je pense que ces voyages sont bénéfiques à condition qu'ils soient très bien préparés. Qu'il y ait une instruction avant d'aller, parce que pour voir et pour comprendre, il faut savoir ce qu'il faut voir et ce qu'il faut comprendre, mais aussi ce qu'on ne verra plus et qui était là auparavant. Donc toutes les traces, vraiment, par exemple, les deux premières chambres à gaz qui ont servi pour nous jusqu'au 20e transport, eh bien, ces chambres à gaz, la plupart des groupes n'y vont pas parce qu'elles sont éloignées, elles sont à l'extérieur de l'enceinte de Birkenau même. Il faut un peu marcher, c'est plus des champs que des sentiers, donc on n'y va pas spécialement. La muséographie d'Auschwitz, pour moi, pose aussi un petit problème, c'est que tous les objets qui étaient censés se trouver à Birkenau ont été rapatriés dans le musée d'Auschwitz. Donc, quand le visiteur n'est pas averti et qu'il voit les tonnes de cheveux, les valises, les chaussures, les rasoirs, les peaux, les vêtements, eh bien, ce sont des objets qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas au lieu qu'est Auschwitz, mais bien au lieu qui est Birkenau. Maintenant, évidemment, pour des raisons de conservation, le musée d'État d'Auschwitz n'a pas les moyens de les laisser en ce lieu-là, parce que Birkenau a été pratiquement complètement démonté après la libération. Mais donc, il faut connaître déjà l'histoire et il faut être bien préparé pour comprendre.
Oui. Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant dans l'actualité, hein, enfin en tout cas dans les temps qui nous entourent. Il y a de plus en plus sur les réseaux sociaux des images du génocide commis par les Juifs produites par intelligence artificielle. Des organisations mémorielles mettent en garde contre ce phénomène qui porte atteinte à l'intégrité de la vérité historique, notamment sur le réseau social TikTok. Comment est-ce que vous le prenez, vous ?
En tant qu'historienne, nous, ce que nous faisons à la caserne de Saint, c'est qu'évidemment, on vérifie systématiquement nos sources. Donc, on va recouper l'information, on va se renseigner sur qui a pris la photo, à quel moment, d'où elle sort, est-ce qu'elle est déjà connue, est-ce qu'elle est répertoriée dans d'autres musées, donc il y a tout un travail de critique historique qui doit être fait. Pour les photos comme pour toute autre source. Évidemment, le risque avec l'intelligence artificielle, l'antisémitisme ambiant et les négationnistes de tout bois, mais c'est évidemment que ces images se diffusent. Et contre ça, j'avoue que je suis un petit peu désarmée, parce que quand on fait une analyse d'un document, ça prend du temps, ça ne se fait pas en 30 secondes. Donc, fabriquer une fausse image va beaucoup plus vite que décrypter si elle est correcte ou pas.
Pour conclure, Laurent Schramm, on imagine que vous êtes en contact avec des survivants de la Shoah. Il y a eu une situation un peu particulière au Moyen-Orient avec une guerre qui s'est produite. L'État d'Israël a été accusé de génocide. Comment est-ce que, justement, ces Juifs qui ont vécu un génocide ont vécu cette période-là de critique constante envers l'État d'Israël ?
Écoutez, ça, je pense qu'il faut leur poser la question à eux et pas à moi. Moi, je déplore évidemment toute violence commise vis-à-vis de civils, mais je condamne aussi évidemment et fortement ce que le Hamas a commis. Oui. Et quand on parle de génocide, il faut se dire qu'il faut là aussi travailler avec des définitions claires. Et ce qui s'est passé à Gaza, pour moi, n'est pas un génocide. Pas selon moi.
Laurence Schramm,
d'ailleurs, je pense que les juristes internationaux ne sont pas non plus fixé sur la question.
Oui, effectivement. Laurence Schramm, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes historienne, que vous officiez à la caserne d'Ossar. À bientôt sur nos ondes.